carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Chopin et la confrérie romantique de Paris. 2010, Frédéric Chopin est à l'honneur. Le monde entier fête le bicentenaire de sa naissance. L'année Chopin voit se multiplier conférences, publications, émissions, concerts dédiés au compositeur polonais, sûrement l'un des plus aimés du public. Et Canal Académie a déjà diffusé une série d'émissions particulièrement consacrées aux lettres de Chopin et offrant de sa vie personnelle une vision on ne peut plus authentique. Et aujourd'hui, nous suivons ce grand musicien au Musée de la vie romantique à Paris, qui lui consacre une exposition intitulée « Frédéric Chopin, la note bleue ». Nous avons le plaisir d'accueillir sur notre antenne Solange Thierry, commissaire de l'exposition. Bonjour Solange Thierry.
Bonjour.
Et Daniel Marchesseau, directeur du Musée de la vie romantique que nos auditeurs connaissent très bien. Daniel Marchesseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Musée de la vie romantique, comme je viens de dire, qui est un lieu où Chopin, de son temps, venait très souvent, je crois, en ami et en voisin.
Oui, Frédéric Chopin venait naturellement avec Georges Sand. Georges Sand a d'abord habité rue Pigalle, et là ensuite, ils se sont installés l'un et l'autre dans deux appartements différents, mais au square d'Orléans, rue Taitbout. Et c'est donc un jet de pierre de la rue Chaptal,
Richefer,
où se trouve le musée de la vie romantique aujourd'hui. Et Richefer aimait passionnément la musique. Et naturellement, Frédéric Chopin est venu jouer là très souvent. Et d'ailleurs, le fait qu'Richefer ait livré et brossé deux portraits de Chopin témoignent bien de cette amitié profonde. Et j'allais dire un petit peu des échanges. Ce n'était pas un concert contre un coup de pinceau, mais le fait que Chopin soit venu souvent et le fait que Schaeffer ait également embrassé la cause polonaise après la crise que nous connaissons et dont nous allons parler montre bien, au fond, l'étroitesse de leur rapport.
Oui, je rappelle à nos auditeurs qu'Richefer est un peintre et sculpteur qui était le premier à habiter ce lieu magique, romantique à souhait, qui est donc maintenant le Musée de la vie romantique. Alors, les auditeurs de Canal Académie, amateurs d'art, savent combien vos expositions sont suivies et appréciées et quels soins nous apportons à les relayer avec grand plaisir. Et celle-ci nous a d'ailleurs à nouveau, bien sûr, enchantés. Mais tout de suite, une première question. Pourquoi ce titre Chopin, la note bleue? Solange Thierry, peut-être?
La note bleue, en fait, fait écho à un texte de Georges Sand qui rapporte une conversation entre Eugène Delacroix, Maurice Sand, qui était l'élève de Delacroix. Georges Sand était présente et Chopin jouait au piano pendant la discussion. Delacroix explique à Maurice Sand le rapport entre les couleurs, que les couleurs l'une à côté de l'autre créent d'autres couleurs, il y a un reflet d'une couleur par rapport à l'autre, et qu'on retrouve le même phénomène en musique, c'est-à-dire des notes côte à côte créent des vibrations musicales, et que donc on est tout à fait dans le même registre. À ce moment-là, Chopin s'arrête de jouer, et tout le monde est très étonné que Chopin s'arrête de jouer. On lui demande pourquoi il s'arrête, et Chopin dit « je ne trouve pas le reflet ». Delacroix lui dit « mais continuez ». Et Chopin répond « mais si je ne trouve que le clair de lune ». Delacroix lui dit « alors vous trouverez le reflet du reflet ». Et l'idée plaît à Chopin et il se remet à jouer. Et à ce moment-là, Georges Sand explique « et nous entendons la musique et nous partons dans les cieux et nous entendons la note bleue ». Et en fait, c'est cette note bleue que nous avons voulu, Jérôme et moi, réfléchir dans l'exposition en mettant à un certain moment de l'exposition en rapport en fait, des tableaux de paysages qui répondent tout à fait à la musique chromatique de Chopin.
Oui, donc ça explique très bien déjà ce climat artistique qui est vraiment très, très, très actif, très intense à cette période, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Et d'ailleurs, c'est le thème de notre émission. Et je vous propose maintenant de nous replacer donc, à l'époque de Chopin et de voir ensemble ce qu'était alors la vie artistique parisienne. Chopin arrive à Paris en 1831. Il a 21 ans, il est déjà connu, il a connu déjà un succès appréciable en Pologne et dans quelques villes en Allemagne et en Autriche. Il était à Berlin, à Dresde, à Stuttgart, qui est d'ailleurs qui a laissé de mauvais souvenirs, je crois, oui. Et à Vienne, où il s'est produit dans des concerts plus qu'intimes, enfin dans des grandes salles de concert. Et puis après la mort de Beethoven et de Schubert, le centre de la vie musicale se déplace vers Paris et c'est là qu'il cherche à s'installer. C'est pourquoi il serait intéressant, Solange Thierry et Daniel Marchesso, que vous nous parliez du climat artistique dans ces années 1830. Mais comme c'est un vaste sujet, parce que vraiment c'est tout le mouvement, tout le génie du mouvement romantique qu'il faudrait couvrir, on pourrait peut-être scinder les différents cercles entre les amis musiciens, ensuite les amis peintres, écrivains, et puis toute la société aristocratique et mondaine, et enfin l'élite parisienne. Donc on va commencer par les musiciens. Alors je ne sais pas qui veut commencer le débat, Daniel Marchesso.
Je crois qu'il serait peut-être intéressant de montrer qu'au moment où Chopin arrive à Paris, on est en plein romantisme. C'est-à-dire Chopin arrive à Paris en 1831. En 1830, Berlioz crée la Symphonie fantastique.
Qui a déjà fait scandale, je crois.
Mais qui est donc le romantisme musical. La même année, Victor Hugo et la bataille d'Hernani qui s'ensuit, donc le romantisme littéraire. Et trois ans plus tôt, au salon de 1827, Delacroix expose la mort de Sadar Napal, qui annonce le romantisme pictural. Donc vraiment, on est là dans un milieu romantique, dans toutes les disciplines culturelles de l'époque. Toutes ces personnes vont se côtoyer, se retrouver dans les salons. Je veux dire, c'est un mélange entre musiciens, poètes, littéraires, peintres, et Chopin va baigner dans cette atmosphère.
Oui. Alors, quels sont les autres amis musiciens de Chopin ? Il y avait donc cette confrérie romantique.
Ça, c'est un confrérie romantique, c'est en fait un nom que va donner Liszt à ce petit groupe d'amis qui s'est retrouvé au début de ces années 30 et qui réunissait en fait cinq musiciens importants: Berlioz, Mendelssohn, Frédéric Chopin, Franz Liszt et Ferdinand Hiller. Et c'était justement à Ferdinand Hiller qu'il écrivait ces termes pour se souvenir en fait de ces périodes heureuses, de cette aventure romantique.
Vous parliez de Berlioz, de Meyerbeer, oui, qui est quand même assez connu, mais enfin moins que Berlioz quand même, Meyerbeer, et Mendelssohn, qui était aussi un très très grand ami de Chopin.
Oui, je veux dire que c'est assez étonnant, c'est sur l'espace de 10 ans, de 1803 à 1813, vous voyez en fait la première génération des musiciens romantiques. En 1803, naît Berlioz, en 1809, Mendelssohn, en 1810, Chopin et Robert Schumann, et 1811, Franz Liszt, et 1813, Verdi et Wagner. Et donc vraiment
c'est
là,
extraordinaire. Oui.
Chopin ne connaîtra pas Wagner et Verdi, car ils auront leur heure de gloire à Paris beaucoup plus tard. Mais sans ça, les autres musiciens, ils se côtoient. Il admire sans admirer vraiment ces musiciens parce que sa musique est tellement à part qu'il sait plus des relations amicales, de discussions. Chopin discutait peu. En fait, il se confiait qu'à son piano. Pendant que les autres discutaient, il jouait. Donc c'était vraiment ça le rapport de Chopin par rapport aux autres.
Et puis il avait une grande correspondance aussi.
La correspondance était avec ses amis polonais qui étaient restés. Et ça, c'est un peu partie de son cœur qui était resté en Pologne, et donc il écrira très très souvent à ses parents et surtout à son grand ami Titus. Il lui parlera tout de la vie parisienne.
Avec qui il avait quitté d'ailleurs Varsovie.
Exactement,
il a quitté. Je ne sais plus à quel.
Il quitte Varsovie le 2 novembre 1830. Il passe la frontière polonaise le 5 novembre, et c'est quand ils sont à Vienne qu'ils apprennent l'insurrection polonaise. Titus rentre pour défendre son pays. Chopin a des velléités de rentrer, mais Titus lui explique qu'en fait, il aura un rôle beaucoup plus important à jouer pour la Pologne en étant à l'extérieur et en parlant de la Pologne par sa musique. Donc Chopin ne rentrera pas en Pologne et continuera son chemin jusqu'à Stuttgart, où là, il apprend cette fameuse répression russe. Et c'est la première fois et la seule fois de sa vie où il s'exprimera par l'écrit, avec ce fameux journal de Stuttgart.
Oui. Que nous pouvons peut-être évoquer un peu plus tard quand on parlera du contexte historique, parce que c'est fort intéressant également. Je m'adresse maintenant à nouveau à Daniel Marchesso, vous qui êtes un grand mélomane. Parlez-nous un petit peu des autres amis musiciens, par exemple Bellini ou Berlioz, qui est aussi académicien. Et comme nous sommes la radio des académiciens, on va quand même le soigner particulièrement, ainsi que Donizetti, qui était aussi académicien. Alors, et pourquoi d'ailleurs ces deux-là étaient élus ?
C'est aussi de voir cette empathie d'un certain nombre de musiciens et d'interprètes et de compositeurs italiens qui viennent à Paris. Donc Chopin vient à Paris de Pologne, Liszt arrive lui aussi, mais il y a Bellini, Donizetti, sous la houlette du grand Rossini, qui est tout de même le mentor de toute cette époque. Et puis, il y a évidemment les grandes voix italiennes, qu'elles soient féminines ou masculines. Et nous montrons d'ailleurs bien dans l'exposition un certain nombre de grandes, on dirait aujourd'hui de grandes stars, enfin parmi les grandes divas. Le mot d'ailleurs va être inventé à cette époque-là, c'est à ce moment-là que le mot diva apparaît, et que l'on dit brava brava, ou bravi bravi, ou bravo bravo. Et vous avez donc des portraits très spectaculaires, je dois dire, aussi bien donc des grands compositeurs, Rossini par Ary Scheffer ou Donizetti, mais également la Pasta, la Grisi,
ses cantatrices,
et puis
célèbres et emblématiques de l'époque.
Et puis Rubini, et puis naturellement Bellini qui va mourir très jeune. Bellini, dont Chopin sera l'un des plus fervents admirateurs.
Et oui, il est mort en 1835, c'est-à-dire à peine quelques années après l'arrivée de Chopin
exactement.
À Paris. Oui.
En fait, il va mourir en Italie, mais on l'amène en Italie quelques jours avant qu'il ne disparaisse. Et Bellini est, au fond, cette étoile filante de l'opéra italien. Et l'opéra italien qui s'est cristallisé dans ce théâtre italien, puisqu'il y avait deux scènes à Paris. L'opéra Le Pelletier et le théâtre italien qui était finalement le deuxième lieu, je dirais, sociétal.
Mmh, oui, et qui ont attiré donc toutes ces grandes
voix et aussi tout de même ces grandes hôtesses. Je pense à la princesse Belgiojoso, parmi d'autres, si vous voulez, il y avait toute une... Alors le mot, évidemment, est un terme du XXe siècle, mais il y avait toute une intelligentsia culturelle extraordinairement...
Oui, toute une élite.
Toute une élite qui ne se réunissait pas uniquement dans les salons, mais également dans ces grands théâtres.
Ah oui, c'était un must de se montrer donc à l'opéra ou au théâtre italien. Oui. Bellini, encore aujourd'hui, on lui est très très reconnaissant d'avoir écrit Norma ou La Somnambule. Et puis Donizetti, il y avait ce fameux trio, n'est-ce pas ? Qui faisait partie de ce trio qui était visible et audible un peu partout ?
Il y avait Lablache, Nouri et Rubini, qui étaient les trois grandes voix.
Et parmi les compositeurs, c'était Rossini,
Donizetti et Bellini.
Et Bellini.
C'était le trio italien.
Nous avons évoqué ces magnifiques compositeurs italiens et les splendeurs de voix de certaines cantatrices. Et puis, comme compositeur extrêmement important, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Solange Thierry, Hector Berlioz. Donc, il a créé et fait scandale avec sa symphonie fantastique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de Hector Berlioz et quelle influence il pouvait avoir sur Chopin?
Je pense que l'influence, il n'y a certainement pas eu d'influence sur Chopin, parce que je crois qu'on n'a pas d'influence sur Chopin. Mais Berlioz, après la symphonie fantastique, part à la Villa Médici à Rome et revient de la Villa Médici, je crois, vers à la fin de l'année 33. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Chopin. Ils sont dans cette atmosphère de bohème, de romantisme, d'amitié. Et la différence qui apparaîtra et qui sera vraiment très visible après, parce que je veux dire que l'un étant la personnification du romantisme extraverti et l'autre est vraiment le romantisme complètement intériorisé, au début n'apparaît pas cette différence. Berlioz est très admirateur en fait du génie de Chopin et il le dira lui-même parce que Berlioz est également critique musical et il écrira des choses tout à fait remarquables sur Chopin. Chopin, par contre, vous faisiez écho à sa correspondance, ne mentionnera jamais Berlioz et nous connaissons son opinion sur Berlioz uniquement par des tiers. Il se confie à Delacroix et le journal de Delacroix a été, vous savez que Delacroix a été le meilleur ami français de Chopin et le journal de Delacroix a été une source précieuse pour nous pour la préparation de l'exposition. Mais plus tard, et en plus, Berlioz tombera amoureux d'une actrice anglaise qui s'appelle Harriet Simpson et qui arrive sur les scènes parisiennes. Malheureusement, elle n'a pas beaucoup de rôles. Et comme il est d'usage à l'époque, il y avait des concerts à bénéfice, c'est-à-dire que le concert était donné au profit d'une personne qui avait besoin de certains revenus. Et Berlioz organise un concert à bénéfice pour Harriet Simpson en 1934 et Chopin, tout naturellement, jouera dans le cadre de ce concert. Bon, plus tard, les relations seront plus distendues et Berlioz prendra un peu plus de recul par rapport à son opinion sur Chopin.
Chopin et Berlioz sont deux personnalités totalement antinomiques puisqu'il y en a un qui écrit avec, je veux dire, pour le piano et c'est une espèce de soliloque, alors que Berlioz est absolument évidemment un symphoniste. Oui. Et donc, par conséquent, les types d'écriture sont totalement différents. Et la sensibilité de l'un et de l'autre, elles sont tout aussi passionnées, passionnelles, enflammée, douloureuse, mais quoi de commun entre les Troyens et une mazurka, vous voyez ce que je veux dire?
Absolument, oui. Merci de nous le rappeler.
Oui, je dis les Troyens à propos justement de la Grèce et de la Pologne, et de tous les événements politiques qui ont été aussi contemporains de cette extraordinaire effervescence culturelle, mais qui repose évidemment sur un terreau nourricier politique extraordinairement dense, douloureux, engagé, et qui a vu aussi bien Théophile Gautier ou Victor Hugo, et naturellement le grand aîné Chateaubriand, prendre des positions très marquées.
Oui, tiens, puisque vous parlez de Chateaubriand, on va peut-être parler maintenant des écrivains et des peintres amis de Chopin. Bon, bien sûr, la grande George Sand, Alfred de Vigny, Gérard de Nerval. Comme peintre, nous avons parlé brièvement tout à l'heure d'Ary Scheffer, très très important dans sa vie. Et de la Croix, son ami fidèle jusqu'au dernier moment, je pense.
Chopin rencontrait en fait ses poètes, ses écrivains, mais il ne se lira pas réellement avec eux. Sa vraie amitié, c'est Eugène Delacroix. C'est une amitié très profonde parce que Eugène Delacroix est musicien. Il reconnaîtra très vite en fait le génie de Chopin. Chopin est tellement tourné vers son piano est vraiment son confident. Donc il regarde peu en fait les arts autour de lui. Et on ne peut pas vraiment donner un goût artistique, du moins définir vraiment ce que Chopin aimait. À la limite, on pourrait dire que Chopin est plus proche de Ingres que de Delacroix. Mais en fait, il était tellement uniquement dans la confidence avec son piano qu'il participait aux réunions amicales avec les uns et les autres, mais il n'avait pas d'engagement vis-à-vis des autres. C'était uniquement cette amitié avec Delacroix qui restera vraiment la plus profonde.
Mais qu'est-ce qui pouvait vraiment les unir? Parce qu'on voit Delacroix toujours très, très tourmenté dans ses tableaux. D'ailleurs, il a fait scandale. Vous avez évoqué tout à l'heure la mort de Sardanapale. Et Chopin, donc, très intériorisé, comme vous disiez, Madame Thierry. On les voit mal, vraiment, Chopin, très, très discret, soliloque avec son piano.
Ils ont tous les deux le même souci de l'élégance, du côté dandysme. En plus, Chopin, il y a une chose que jusqu'à maintenant, on a une image un peu stéréotypée de Chopin. Et en fait, Chopin, il y a cet homme qui souffre, qui se confie, qui est l'exilé permanent. Mais il y a aussi l'homme du monde par excellence, comme disait George Sand. Et c'est un hôte, mais absolument fantastique pour les maîtresses de maison. Et avec Delacroix, ils sont vraiment les personnes très recherchées dans les salons parisiens de l'époque. Donc, ils partagent cette même amour de la société, des relations sociales. Chopin est un homme qui, en société, est très amusant. Donc, je veux dire qu'il faut casser un peu cette image trop stéréotypée qu'on a de Chopin. Mais en dehors de ce côté, disons, un peu extérieur, de goût pour l'élégance, Delacroix, je vous l'ai dit, était un musicien, avait une formation musicienne, et ils avaient des discussions à perte de vue sur la musique. Ils parcouraient le jardin de Nohant en discutant des heures et des heures sur la musique. Mmh. Et c'était vraiment ce qui les unissait, c'était vraiment cette passion commune pour la musique.
Ce qui est intéressant, c'est que Delacroix a une passion pour la musique et pour celle, naturellement, de Frédéric Chopin. Notre cher Frédéric Chopin n'entend rien à la peinture de Jeanne Delacroix. L'intériorité de Chopin, elle est quand même extraordinairement narcissique. Au fond, il y a dans toute l'écriture de Chopin cet aspect journal intime, ce côté réflexif, cette évocation de la terre natale, de l'exil, de la terre abandonnée, et puis, par ailleurs, ce rapport à l'autre, mais l'autre, c'est une personne, c'est son élève, c'est son admiratrice, c'est son amante, c'est son admirateur. Delacroix respecte parfaitement cette extraordinaire unicité qu'il peut y avoir chez Frédéric Chopin. Et d'où, évidemment, ces dialogues constants, passionnants et probablement extraordinairement nourriciers pour Delacroix lui-même. Mais on parlait tout à l'heure des autres musiciens qu'aimait Frédéric Chopin. Le fait qu'il s'enthousiasme pour la virtuosité de Paganini, par exemple, et là encore, on est dans le soliloque chez Paganini, montre bien comment il est extraordinairement centré sur lui-même et sur ce désir d'aller au-delà de ce qu'est une virtuosité d'écriture et un chromatisme musical extraordinairement riche.
D'ailleurs, on va tout de suite entendre quelques notes.
Thank you.
D'après ces notes, on comprend qu'une autre figure fut fort impressionnée par Chopin, Georges Sand.
C'est évident que Georges Sand a été la mère, l'amante, et je veux dire, elle a su recréer autour de Chopin et pour Chopin à Nohant un lieu magique où il a pu vraiment créer ses plus belles compositions. Chopin a toujours la nostalgie en fait de son enfance avec sa famille. Et je crois que c'est tout le mérite de Georges Sand d'avoir su créer à Nohant cette atmosphère familiale, surtout les premières années où les enfants sont encore jeunes, Maurice et Solange. Et là, il est vraiment dans cette intimité où il a la possibilité, où tout son génie peut se développer au mieux. C'est là où il crée la Barcarolle, la Berceuse, les plus belles nocturnes. Malheureusement, quand les enfants grandissent, il y a des réactions un peu plus difficiles. Maurice commence à être un peu jaloux de Frédéric par rapport à sa mère. Et puis, effectivement, Solange grandit aussi. Et les dernières années, c'est-à-dire 46 à Nohant, deviennent beaucoup plus douloureuses. Et c'est la dernière été à Nohant. Mais pendant toutes ces années, ces 8 années où Chopin a vécu avec Georges Sand, la moitié de l'année, il l'a passé à Paris, où il donnait ses leçons, qui était son moyen de survivre, de vivre, parce qu'il a donné très peu de concerts publics. Il allait donner ses concerts privés dans les salons parisiens, et il n'avait pas le temps de composer. Et donc c'est vraiment à Nohant où il a pu avoir toutes les facultés de réflexion et de pouvoir faire ses improvisations qu'il transformait en plus dans ses compositions.
Oui, vous dites ils ont vécu ensemble pendant 8 ans, c'est-à-dire ils se sont rencontrés en quelle année ?
En fait, Chopin rencontre Georges Sand chez Marie Dagou et Franz Liszt à la fin de l'année 36, quand ils reviennent tous les trois de Suisse.
Donc, Chopin était à Paris déjà depuis 6 ans alors ?
Depuis 6 ans. L'année 37 est une année un peu difficile pour Chopin parce qu'il quitte, il y a une séparation des fiançailles avec une jeune Polonaise. Et c'est vraiment à la fin de 37 et début 38 que la liaison commence avec Georges Sand. En juillet 38, il y a ce fameux portrait de Delacroix qui représente Chopin, donc le tableau que nous avons, qui est un peu emblématique.
Et qu'on peut voir, bien sûr, dans cette exposition.
Et vous savez que ce tableau est en fait un tableau qui était à l'origine, représentait Chopin, et juste derrière lui, on voyait Georges Sand accoudé en train de l'écouter. Ce tableau a été coupé à la fin du 19e siècle, et Georges Sand est conservé aujourd'hui à Copenhague.
Le tableau a été probablement accidenté.
Donc depuis 38, en fait, jusqu'à 46, c'est vraiment les plus belles années pour Chopin, où il a vraiment pu se retrouver dans un climat où Georges Sand, effectivement, le maternait, s'occupait de lui. Mais surtout, en plus, Georges Sand était musicienne et reconnaissait complètement le génie de Chopin. Quand vous lisez « Histoire de ma vie », les textes qu'elle écrit sur Chopin sont absolument admirables. Et il faut vraiment lui reconnaître qu'elle a peut-être porté Chopin, mais elle l'a porté pour qu'il crée le meilleur de lui-même.
La grande polonaise. Daniel Marchesso, vous la connaissez bien, George Sand.
Oui, George Sand venait évidemment en ami de Chaptal, dans l'enclos Chaptal. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est une femme. Vous vous souvenez du fameux titre de Balzac, La femme de 30 ans. Lorsqu'elle rencontre évidemment Frédéric Chopin, elle a plus de 30 ans. Et lui en a 6 de moins. Et elle va effectivement, quand elle lui dit « on vous adore » dès la première rencontre, il y a à la fois cette espèce de passion pour le musicien, mais aussi pour le jeune homme extraordinairement séduisant. Et il a pour elle des sentiments peut-être un peu mélangés au départ. Elle est plus âgée que lui, c'est une femme de tête, extraordinairement pugnace, d'une très grande séduction, mais il manie moins bien la langue française qu'elle, et il va la séduire par son piano. Et il me semble que le fait qu'elle ait préservé pendant 8 ans le génie de Frédéric Chopin en l'encourageant à travailler à Nohant, où il a retrouvé tout de même l'esprit de la campagne dans laquelle il a été élevé lorsqu'il était en province à côté de Varsovie, lui a donné ce havre de paix et ce havre, j'allais dire, de silence qui est tellement nécessaire à un musicien pour exprimer par son piano, tout ce qui sont ses grandes inspirations qui trouvent leur source dans son terreau natal. Et la balance entre Paris et Nohant est extraordinaire parce que dans l'un, en effet, à Paris, c'est un homme de société, c'est un homme de salon, c'est un homme aussi qui enseigne, qui se produit très peu en public, mais assez souvent en société. Et puis là-bas, il y a effectivement, il est dans le havre de son cabinet pour travailler.
Oui, il a, comme a si bien dit Solange Thierry, où il a la tranquillité et aussi l'inspiration, peut-être portée aussi par la nature et puis cet environnement affectueux pour créer encore d'autres chefs-d'œuvre qu'on écoute tout de suite. Pour terminer ce chapitre sur les années Chopin à Paris, nous pouvons peut-être brièvement encore évoquer, disons, les relations mondaines et les salons où Chopin a pu se produire. Vous avez évoqué tout à l'heure, Daniel Marchesso, je crois que c'était la princesse Belle Giojoso, c'est ça ? Oui. Mm-hmm.
Mais nous pouvons également évoquer, dans le domaine de la haute finance, le salon de James de Rothschild, naturellement dont la fille va être l'élève de Frédéric Chopin, ou bien dans le domaine évidemment de l'aristocratie polonaise en exil à Paris, la princesse Czartoryska qui va, peu après son arrivée à Paris, d'ailleurs s'installer à l'hôtel Lambert, où elle recevra tout de même tous ses compatriotes en exil et où Chopin donnera justement un certain nombre de ses concerts pour soutenir ses compatriotes.
Au bénéfice, c'est ça,
au bénéfice de ses compatriotes.
De ses compatriotes, oui. Oui. D'ailleurs, nous n'avons pas trop parlé de ça, mais peut-être dans la deuxième partie, nous parlerons plus longuement de l'immigration polonaise à Paris, entre autres. Donc, je vous suggère une courte pause, avec une musique de Chopin, bien sûr. Et après cet interlude, nous en viendrons au contexte historique France-Pologne de ces années 1830. Venons d'entendre le magnifique duo pour piano et violoncelle concertant en mi majeur, exécuté par l'académicienne Brigitte Engerer et Henri Desmarquettes au violoncelle. Nous sommes en compagnie toujours de Madame Solange Thierry et Monsieur Daniel Marchessault, respectivement commissaire de cette belle exposition Frédéric Chopin, la note bleue, et le directeur du musée de la vie romantique, Daniel Marchessault. Alors avant la pause, nous avons brossé un portrait de la vie artistique dans le Paris de Chopin de l'année 1831 à sa mort en 1849. Vos évocations de cette époque nous ont placés vraiment en bonne compagnie et de George Sand, évidemment, d'Eugène Delacroix et bien d'autres proches comme Liszt, Mendelssohn, Meyerbeer, Berlioz, Rossini, Donizetti, Bellini et tant d'autres. Et maintenant, je voudrais aborder un autre volet. Comprendre comment Chopin, étranger, polonais, a été si vite accepté, choyé même, dans les cercles de l'élite française et européenne. Alors, traitons d'abord, si vous voulez bien, du contexte historique de ces années de l'installation de Chopin à Paris. Ces années 1830 extrêmement tourmentées, avec les événements qui ont marqué l'époque dans beaucoup de pays. Et sans doute est-il bon de rappeler la tragique défaite subie en Pologne après l'insurrection de novembre, qu'on appelle aussi l'insurrection de Varsovie, et pour toute une élite polonaise, la vague d'émigration vers la France qui s'en est suivie. C'est dans ce contexte que Chopin choisira la France, où le régime, disons, apaisé de la monarchie de Juillet fait suite aux Trois Glorieuses. Alors, comment Chopin a-t-il vécu ce contexte et assumé ce choix de définitivement quitter sa patrie, qu'il chérissait tout de même. Solange Thierry ?
Je pense que brièvement, il faut rappeler quelques faits par rapport à l'histoire de la Pologne. Le congrès de Vienne en 1815, la Pologne reste sous la domination russe. Cette domination est très lourde pour la Polonaise. C'est le grand-duc Constantin, le frère du tsar, qui dirige la Pologne. Et il y a énormément de conspirations contre les Russes. Chopin participera dans ces réunions contre les Russes, mais il quitte, lui, la Pologne, comme on l'a dit tout à l'heure. Il quitte Varsovie le 2 novembre, la Pologne le 5 novembre, et l'insurrection polonaise a lieu le 29 novembre 1830. Les Polonais sont d'abord vainqueurs, le grand-duc est défait, le belvédère est pris. Mais malheureusement, le 8 septembre 1831, les Polonais sont « matés » entre guillemets par les Russes. Et là, il y a une grande émigration polonaise. Entre 6 à 8 000 Polonais quittent la Pologne. La France, terre d'exil, terre de liberté, il y a eu la Grande Révolution, il y a eu les Trois Glorieuses que vous venez de rappeler. Et donc, c'est évidemment un pays qui va accueillir les Polonais. Il faut aussi rappeler qu'il y avait des liens assez étroits entre la France et la Pologne et que les Polonais ont attendu en vain un secours français. Et quand il y a cette fameuse phrase qui est prononcée à la Chambre par le ministre des Affaires étrangères de Louis-Philippe, Sébastiani, 8 jours après la victoire russe, l'ordre règne à Varsovie, il y a une émeute en fait à Paris. La population française est tout à fait pro-polonaise et le milieu intellectuel, que ce soit les écrivains, les peintres, prennent parti pour la Pologne. Et en fait, Chopin arrive à Paris, il s'installe au Beauvoir Poissonnière et il assiste en fait à ces émeutes qui sont matées par la police de Louis-Philippe. Et tout ce milieu intellectuel prend parti, comme ils ont pris parti pour la Grèce quelques années avant. Schaeffer, un des premiers, sera très proche des Polonais et va réaliser cette superbe aquarelle qui était présentée dans le cadre de l'exposition, qui s'appelle la Polonia, et qui est en fait un hommage aux Polonais soumis par les Russes, où on voit en fait une femme qui personnifie la Pologne, qui est allongée sur un aigle aux ailes déployées et qui est transpercée par la lance d'un cosaque à cheval. Mais Victor Hugo également, je veux dire qu'il y a beaucoup d'intellectuels et même la population française de la vigne crée l'hymne national également. Tout le monde se mobilise pour défendre, il y a des ventes de charité. Donc c'est vraiment, la population française est vraiment tout à fait pro-polonaise. Et donc Chopin s'inscrit normalement en fait dans ce contexte-là. Il n'a pas participé et il ne fait pas partie de l'exil polonais, mais il est le chantre, en fait, le héros de cette Pologne en exil par les mazurkas, par les polonaises. Ce sont tout ce folklore polonais. On ne danse pas sur les mazurkas de Chopin, mais il a complètement transgressé et sublimé, en fait, ces danses folkloriques et qui sont, en fait, pour tous ces Polonais à Paris, vraiment, je veux dire, pour eux, le héros. Il y a en littérature polonaise l'alter ego de Chopin qui est Adam Mickiewicz, qui sera également l'exilé polonais, qui aura une chaire d'études slaves au Collège de France. Et Chopin fera des compositions sur les poèmes de Mickiewicz. Et donc on a vraiment là deux héros nationaux polonais et qui vont vraiment sublimer la Pologne en exil.
Oui, c'était donc vraiment l'époque romantique qui a tellement bien accueilli le romantisme polonais et qui s'est installé finalement à Paris.
Le père de Frédéric Chopin était français. Je dirais que l'osmose, oui, elle était évidente. Et elle était, je dirais, presque matricielle. En revanche, quand Chopin vient à Paris, il vient à Paris, je dirais, d'une façon temporaire, puisqu'il envisage de partir en Angleterre. Et parce qu'il avait besoin d'un passeport russe, puisque la Pologne était russe.
Sous occupation russe.
C'était sous occupation russe. C'est parce qu'il ne voulait pas demander un passeport, donc russe, qu'il est resté à Paris. Parce qu'au fond, il s'était dit « j'irai de Vienne à Paris et ensuite de Paris à Londres ». Et évidemment, tout naturellement, après les salons qu'il a connus à Varsovie, notamment celui du prince Radziwill, où il a joué dès qu'il avait 19 ans, il s'est trouvé immédiatement accueilli très naturellement et admirablement dans les salons de la société du Faubourg Saint-Germain et également dans les milieux de la finance et de l'émigration. Et là, tout naturellement, tout s'est passé admirablement.
Donc il a presque, on pourrait dire, profité de ce climat politique.
Il était tout sauf calculateur et je crois que Paris était avide également de génie. Le romantisme, c'est d'abord la soif du génie et la soif d'applaudissements qu'on est prêt à offrir aux plus grands talents, qu'ils soient littéraires, picturaux ou musicaux.
Oui, donc cette internationale romantique, on pourrait peut-être l'appeler comme ça, a été sensible au registre spécifiquement polonais de Chopin, mais aussi au contexte historique, comme vous l'avez si bien évoqué, a favorisé, je ne voulais pas dire profiter dans le sens négatif, mais a favorisé l'oreille attentive de toute la société, de l'élite à Paris, n'est-ce pas ? Nous devons tout de même encore évoquer le phénomène piano de cette époque, parce que, bien sûr, Chopin et le piano sont inséparables. Et dans cette société, il était nécessaire pour le statut de chaque famille, et notamment pour les aristocrates, d'avoir un, sinon plusieurs pianos. Et il y a eu à cette époque-là, d'ailleurs, des facteurs de piano très célèbres, comme Pleyel, qui était d'ailleurs autrichien, chose qu'on ne sait pas toujours. Je défends un peu mes compatriotes.
Ignace, oui, venu d'Autriche, s'installer à Paris.
Et puis Erhard, etc. Chaque facteur avait ses artistes attitrés. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot, peut-être, Solange Thierry ?
Oui, je veux dire que le piano au XIXe siècle prend une importance très large. D'une part, parce qu'il y a des progrès techniques très importants sur le piano. Il y a l'apparition de ces facteurs de piano que vous évoquiez, donc Camille Pleyel, Erhard, Pape. Et tous ces facteurs de piano comprennent qu'ils doivent associer en fait leur nom à des grands musiciens. Camille Pleyel s'associera avec Chopin. Chopin ne jouera que sur des Pleyel à partir du moment où il est à Paris. Par contre, Erhard s'associera avec Franz Liszt. Ces associations se font aussi parce que la musicalité de ces pianos correspondent en fait à la musique de l'un et de l'autre. Le Pleyel est une musicalité très douce, très moelleuse, un toucher très délicat qui correspond en fait à la musique de Chopin. Et donc, ces facteurs de piano associent leur nom à ces musiciens, mais aussi développent chez eux des salles de concert. Et c'est là où les quelques concerts que Chopin donnera, il les donnera dans les salles, entre autres dans les salons de Pleyel. Ces facteurs de piano aussi comprennent qu'il est important de faire éditer la musique et donc ils deviennent éditeurs de musique. Pleyel sera le seul éditeur pour les préludes composés à Majorque, mais Chopin aura d'autres compositeurs de musique, Troppenas, Schlesinger. Donc il y a vraiment, ce piano devient vraiment un élément très important et un élément très important de la société également. C'est-à-dire que chaque famille se doit d'avoir un piano chez soi. Et Chopin, tout naturellement, en allant jouer dans les salons parisiens, que ce soit les salons de l'aristocratie de l'Ancien Régime ou de la bourgeoisie financière naissante sous Louis-Philippe, naturellement trouvera ses élèves dans ces familles-là. Et les jeunes filles deviendront ses élèves plus ou moins favorites. Chopin, comme je vous l'ai dit, a peu joué en concert public. Ce n'est pas une musique qui est audible vraiment pour l'estrade. Et il se fait payer relativement cher ses leçons. Il donne 5 à 6 leçons par jour. Il se fait payer 20 francs or la leçon chez lui, ce qui fait, on a essayé de faire un change par rapport au, ça fait à peu près 300 euros, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et quand il doit aller donner une leçon chez la personne, il demandait 30 francs or et une calèche vient de le chercher. Donc le piano fait partie de la société.
Mmh. Et le piano lui-même, je crois, a connu une certaine révolution. C'est-à-dire, il y avait cette symbiose entre les compositeurs que vous venez d'évoquer et les facteurs de piano qui, eux-mêmes, ont transformé l'instrument en parallèle avec
En fait, il y avait une double connivence. En fait, les facteurs de piano avaient des idées de perfectionnement, mais les compositeurs, en créant des compositions de plus en plus compliquées, obligeaient les facteurs de piano à trouver d'autres moyens techniques pour améliorer la sonorité. Donc il y avait vraiment cette complicité entre le facteur et le compositeur.
Oui, oui, oui.
Et dans le domaine des arts décoratifs, le piano, puisqu'on passe de l'épinette finalement au piano forte, au pianino, au piano forte et au piano de concert, le piano devient un élément meublant extraordinairement important. Nous sommes là, évidemment, dans un nouvel ordre de vivre, avec un nouveau type d'habitation, de nouveaux types de salons, des pièces qui ont naturellement une autre ordonnance par rapport au 18e. Le 19e voit un changement dans l'urbanisme parisien et dans l'architecture des logements et dans l'ordonnance des différentes pièces de l'appartement. Et le piano devient un élément tout à fait central. Et selon on se rend compte, d'ailleurs, que dans certaines illustrations, on se rend compte de la place prédominante qu'a l'instrument dans le mobilier de l'époque. Et il y a deux instruments, au fond, que l'on remarque très bien. C'est d'abord le piano et ensuite la harpe. Le violon, beaucoup moins naturellement, encore que quelqu'un comme Ingres, par exemple, ait naturellement considérablement contribué à l'essor du violon, du violon. Nous savons.
Mais d'ailleurs, je dois rappeler que dans votre vraiment très très belle exposition, il y a plusieurs gravures qui montrent bien le piano au centre, avec toute la société aristocratique en grande partie autour. Chopin au piano, il y a quelques gravures.
La gravure du salon du prince Radziwill, l'original est une très grande toile qui n'a évidemment pas pu venir, qui est au musée de Vienne. Mais donc là, nous sommes évidemment en 1829. Mais il y a dans l'exposition des pièces de Deveria, par exemple, où on se rend compte comment dans les années 30 et 40, 1830 et 1840, tout d'un coup, le piano participe de l'art de vivre à la française.
Oui. Alors, une dernière question, si vous voulez bien, peut-être un peu insolite, mais quel intérêt réel peut avoir Chopin aujourd'hui au XXIe siècle parmi les génies de la musique, bien sûr, outre le culte voué traditionnellement aux figures emblématiques du passé, mais Chopin qui a finalement une œuvre très restreinte. Enfin, on peut entendre sa musique en continu en quelque chose comme une vingtaine d'heures, ce qui est quand même très très peu par rapport à d'autres musiciens, sans parler de Mozart, etc. Donc quel est son véritable intérêt aujourd'hui?
À vrai dire, il a été le père de toute la musique pianistique du 19e et du 20e siècle. Je veux dire, il n'y aurait pas Fauré, il n'y aurait pas Debussy, il n'y aurait pas Ravel, il n'y aurait même pas Stravinsky sans Chopin. Mais surtout, cette image totalement intime, cette expression de lui-même, de son moi, de ses émotions qu'il lui permette, enfin, permette à d'autres de se retrouver dans ses partitions. C'est évident que lorsqu'on joue un nocturne, lorsqu'on joue un impromptu, lorsqu'on joue la barcarolle, plus que dans la polonaise ou plus que dans des valses, il y a cette expression extraordinairement personnelle, égocentrique, intériorisée, qui est au fond toute la palette des émotions. Et ça, c'est évidemment, c'est intemporel.
Ouais, c'est
et puis c'est toujours. Aussi, et puis c'est aussi, contrairement à la musique symphonique qui balaie des émotions de toute autre nature, il y a là un registre dans lequel chacun peut se reconnaître, quelle que soit d'ailleurs sa nationalité, puisqu'on le voit bien aujourd'hui, l'art de Chopin, il est absolument international, tout le monde s'y reconnaît.
Oui, en tout cas, un très grand merci de nous avoir fait rêver sur Chopin et ce monde romantique d'une époque où Paris était la capitale de la musique et des arts. Et je rappelle l'exposition au Musée de la vie romantique à Paris, Frédéric Chopin, La note bleue. On peut la voir encore jusqu'au 11 juillet 2010. Et on ne peut pas omettre de souligner l'excellent catalogue de l'exposition de Solange Thierry et Jérôme Godeau, publié par Paris Musée en 2010 donc. Et Solange Thierry qui signe d'ailleurs une contribution sur Paris, capitale européenne du romantisme musical, et une autre sur l'histoire de la Pologne au temps de Chopin, et puis une riche biographie des musiciens et des écrivains et peintres dans ce même catalogue. Oui, on peut dire donc que cet ouvrage est vraiment indispensable pour tout amoureux de Chopin. Merci beaucoup à vous deux.
Merci beaucoup.